Le vrai true crime avec les vrais dossiers. Bienvenue sur Mémoire d'archives. Donc, bonsoir ou bonjour tout le monde, ça dépend à l'heure que vous m'écoutez. Bienvenue dans cette balado hors série, parce qu'on fait un petit accro ici, une petite incursion dans la série Blanche Garneau, mais on va y revenir à la prochaine balado, évidemment, ce sera le chapitre 11, donc on continuera. Mais ici, je voulais profiter du fait que, bon, hier, le 26 mai, vendredi, je recevais je portais à rajouter ou enlever des lettres à certains mots. Bref, désolé. Donc, c'est ça, j'ai reçu ma boîte de livres, mon tout dernier livre, qui est en fait la conclusion ou le tome 3 de la trilogie « Saute au cochon ». Pour ceux et celles qui ne savent pas de quoi on parle dans l'affaire Saute au cochon, et il y en a d'autres que juste le nom va les allumer, c'est quand même une tragédie. On l'a décrit comme le crime du siècle. Évidemment, le siècle, on parle du 20e siècle ici, parce que ça a été le premier attentat aérien commis en Amérique du Nord. Et oui, ça s'est passé ici au Québec. Bref, pour faire un résumé, c'est souvent la phrase que j'emploie, ou les quelques phrases. Un homme, pour vouloir se débarrasser de sa femme, parce que ça allait pas bien avec elle, a placé, avec l'aide de deux complices, donc il y a trois personnes impliquées dans ça, a fait placer une bombe dans un avion à l'aéroport de Québec, ou si vous préférez l'ancienne Lorette, et l'avion a décollé. Il a explosé au-dessus d'un endroit appelé Saute au cochon, que pas beaucoup de gens connaissent, parce qu'évidemment, c'est pas une place très populeuse, c'est en plein bois, et c'est pas accessible non plus au public. Et l'explosion a coûté la vie à 23 personnes, rien de moins, dont trois membres d'équipage, le pilote, le copilote et l'hôtesse de l'air. Donc 23 personnes pour un drame domestique. Comme on dit maintenant, c'est un... En fait, il faut s'arrêter aux motivations. Hein. Je m'intéresse aux motivations depuis un certain temps déjà, avec les études qui se font principalement aux États-Unis. C'est ça. Il faut pas se fier toujours au résultat du crime, parce qu'ici, le résultat est épouvantable. C'est 23 personnes décédées d'un seul coup avec un avion qui explose en plein vol. C'est digne d'un scénario d'Hollywood, vous allez me dire. Mais à la base, c'est un gars qui voulait se débarrasser de sa femme pour vouloir vivre avec sa maîtresse. Et oui, sa maîtresse, sa jeune maîtresse qui avait 16 ans à cette époque-là. Et le bonhomme en question s'appelait Albert Gay. Il y en a qui vont peut-être s'en souvenir et tout ça, parce que ça a quand même suscité beaucoup d'intérêt à travers les années. Parce que le drame s'est passé en 1949. C'est sûr que la plupart d'entre vous n'étiez probablement pas là. Moi non plus. Mais ça a fait parler parce que, bon, dans les années 80, Denis Arcand en a fait un film qui s'appelait Le crime d'Ovid Plouf. Donc, voilà. Il y a peut-être quelques-uns qui vont s'en souvenir. Il y a eu certains reportages aussi, des documentaires qui ont été faits avec ça. J'ai un ami qui m'a suggéré, après la publication de mon premier tome, de suggérer à Radio-Canada de présenter une histoire là-dessus, mais Radio-Canada m'a répondu que non, tout avait déjà été fait. C'est un petit peu prétentieux. J'aime beaucoup, 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 beaucoup Radio-Canada. Je vous le cacherai pas. Mais là-dessus, je les ai trouvés très prétentieux parce que, mon enquête a trouvé d'autres choses aussi. Voilà. Je relancerai pas le débat avec les journalistes et ma méthode qui est plus judiciaire, disons. Donc, c'est ça. Ça, c'est de l'enquête journalistique. Moi, c'est de l'enquête qui se rapproche pas mal plus de l'enquête policière ou judiciaire. Donc voilà, je suis allé pas mal plus loin. La preuve, j'ai contacté, je dévoile pas toutes mes punches, Mais pour ceux et celles qui ont lu le tome 2, vous savez déjà que j'ai essayé de contacter le FBI pour une chose. Et je les ai contactés aussi pour une deuxième chose. Deuxième volet qu'on va parler ici dans le tome 3. Mais c'est sûr que c'est pas ça qui prend la place là, dans le livre, mais quand même. Et j'ai un punch à la fin tout à fait intéressant, moi, qui m'a donné des frissons. C'est que on s'est toujours demandé, parce que là, j'ai dit tantôt que c'était le premier attentat aérien en Amérique du Nord, mais mondialement, il s'en est produit un à Manille, ou près de Manille, aux Philippines, quelques mois auparavant, donc je pense que c'était en mai 1949, et ça avait fait un petit peu la manchette dans les journaux du Québec à l'époque, parce qu'il y avait pas, la télévision n'était pas encore implantée, tout à fait. Puis on s'est toujours demandé, est-ce que Albert Guay a pu s'inspirer de cette affaire-là? Parce que c'est fort possible. Parce qu'en avril 1949, écoutez bien ça, ça on l'a vu dans le tome 1 et 2, là, fait que je révèle pas de punch pour le tome 3. En avril 1949, ça a été prouvé qu'il a essayé de se débarrasser de sa femme en voulant engager un supposé ami, pour l'empoisonner avec une bouteille de vin, je sais pas trop quoi. Mais l'ami a refusé, évidemment, de participer à ce petit complot-là. Donc, l'idée s'est développée par la suite. Voyez-vous, l'idée de base, là, il voulait l'empoisonner. Donc, il n'était pas question de mettre une bombe dans un avion. Il voulait se débarrasser de sa femme, c'est tout. Donc, on comprend que c'est ensuite que l'idée de l'avion et de la dynamite et de la bombe et tout ça est arrivée. Et là, il y a deux complices. Dans le tome 2, on a vu tout le procès de Généreux Ruet. Généreux Ruet qui travaillait à l'emploi d'Albert Guay comme réparateur de montre, parce que le métier officiel d'Albert Guay était bijoutier. Mais je pense que ça cachait bien des choses. Et il y a Madame Pitre, qui était la sœur, de Généreux Ruet, qui arrive dans le décor, elle aussi. Elle va acheter, entre autres, la dynamite qui va confectionner la bombe. Donc, est-ce que c'est l'un de ces deux nouveaux personnages qui a suggéré à Albert Guay d'utiliser cette méthode-là? Pas mal plus drastique, mais là, on serait sûr de s'en débarrasser. Voyez-vous, c'est très tordu, mais là, on a pu s'inspirer peut-être de ce qui s'était passé aux Philippines, parce que ça se ressemble d'une façon assez spectaculaire. Parce que dans l'affaire des Philippines, on a voulu se débarrasser d'un homme dans ce cas-là. On disait que les trois responsables, il y avait trois responsables également, donc un copier-coller quasiment, voulaient la mort de cet homme-là pour pouvoir vivre avec sa femme. Donc, voyez-vous, encore une affaire de sentimentalité et tout ça. Et bon, dans la différence, c'est qu'on a réussi dans ce cas-là, à faire exploser l'avion au-dessus de l'eau. Donc, on n'a jamais retrouvé la carcasse ni les corps. Et pour ceux et celles qui sont déjà au courant un petit peu de saut au cochon, bien, c'est ce qui semble avoir été prévu aussi. On voulait faire exploser l'avion un petit peu plus tôt, mais à cause d'un retard de 5 minutes, au lieu d'exploser au-dessus du fleuve, bien, elle a explosé. Elle a explosé en effet au-dessus du fleuve, mais elle a continué de planer et d'atterrir dans les bois à saut au cochon. Donc, c'est pour ça qui est resté des carcasses, on a pu récupérer les corps et tout ça, et beaucoup de preuves. Il y avait des éléments de preuve là, à n'en plus finir. Alors voilà. Donc, aujourd'hui, c'est le lancement, je le fais par balado, le lancement du tome 3 qui, bon, ça s'appelle encore Saute au cochon. Tome 3 a pour titre Le témoignage qui tue. Oui, rien de moins. Pourquoi ce titre-là? Bien, c'est parce que cette fois, c'est le procès de Madame Pitre. Madame Pitre, je révèle peut-être un punch pour les plus jeunes, mais il n'est pas question juste de ça. Ça a été la dernière femme pendue au Canada. Et la question qu'on se pose depuis le début, depuis le tome 1, c'est est-ce qu'elle a été victime d'injustice? Donc, on va tout voir ça là-dedans. On va pouvoir répondre à la question, savoir si elle a été pendue ou si elle aurait dû plutôt être innocentée ou plutôt être condamnée, mais pas pendue. Bref, ça, c'est une question d'opinion. On sait que dans les années 50, c'était en plein changement. C'est sûr qu'il y a eu l'affaire Coffin aussi par la suite, là, en 53-54. Mais déjà, la dernière personne pendue au Québec date de 1960. Après ça, on a arrêté de pendre et l'abolition s'est faite officiellement en 1976. Donc, c'était sur le point de changer. Si le crime de Sautocochon était survenu une dizaine d'années plus tôt, probablement que les trois responsables n'auraient pas été pendus. On aurait pu les interroger par la suite, par exemple, faire des reportages ou peu importe, mais peut-être qu'on aurait eu aussi de la bullshit, parce que les criminels comme ça sont tellement habitués de mentir. Et on l'a vu d'ailleurs, si vous avez lu le tome 1 et le tome 2, même en cours, c'est assez spectaculaire. Donc, voilà, le tome 3 va tenter de répondre à cette question-là. Et une anecdote toute récente, je vous disais tantôt que j'avais reçu ma caisse de livres pour moi, là, mes livres qui m'appartiennent à moi et non pas ceux qui s'en vont en librairie. Je l'ai reçu hier, donc le 26 mai, et le même jour, je reçois un courriel d'une personne que je ne nommerai pas, mais qui est la descendante d'une des victimes de l'avion. Pour ceux et celles qui ont lu le tome 2, il y en a une autre là, qui m'avait contacté. Mais pour faire une histoire courte, au moment de vraiment compléter, parce que là, à la fin du tome 3, j'ai un cahier spécial qui contient beaucoup de photos des victimes et une courte biographie de chaque victime. Il y en a que j'ai fouillé tellement loin là aussi, là. Même jusqu'en Alberta pour ce qui est de l'hôtesse de l'air, donc Gertrude de McKay. Et j'ai retrouvé, avec l'aide de certaines personnes, j'ai retrouvé sa pierre tombale là-bas et un peu de son histoire. Donc, pour certaines victimes, j'ai trouvé quand même beaucoup de choses. Il y en a que j'ai réussi à contacter des descendants et même de la parenté très proche. Il y en a que ça s'est fait par courriel, d'autres par téléphone. Il y en a une qui m'a bouleversé, mais que je peux pas raconter parce que la personne refuse de participer, veut pas en parler, et je respecte ça à 100%. C'est pas un problème. Mais d'un autre côté, je voyais pas pourquoi. J'avais de la difficulté quand même à comprendre cette position-là parce que c'est la vie. Vous êtes parenté avec une victime et non pas le tueur. C'est pas comme si j'avais contacté le frère ou un descendant de Albert Gay. Donc, il n'y a pas de honte à avoir eu une victime de meurtre dans sa parenté. En tout cas, je ne pense pas. C'est dommage. Mais bon, on respecte ça quand même. Mais cette personne-là, au moment de faire ma recherche, je suis tombé sur le fils d'une des victimes qui venait de décéder. Donc là, on se transporte en 2021, il y a 2 ans à peu près. Et en faisant cette continuité-là avec la victime, je m'aperçois que son fils, né en 1937, vient de décéder. Ça faisait même pas un mois au moment que je fais ma recherche. Donc, première déception. Mais je décide quand même d'écrire au salon funéraire qui s'est occupé des funérailles. Là, évidemment, on est encore en pleine pandémie, là, c'est compliqué, tout ça. Et les funérailles se faisaient en Ontario. Le monsieur en question avait été, on soupçonne que c'était un domaine, comment je dirais ça, donc un monsieur bien nanti, parce qu'il avait travaillé une bonne partie de sa vie pour la plus importante compagnie mondiale à un moment donné, je ne sais plus si c'est encore le cas, mais la compagnie ExxonMobil, en tout cas, enregistrée à la bourse et tout ça. Une grosse compagnie pétrolière, donc énergétique, si on peut dire, parce que les compagnies pétrolières, je pense, sont en train de se transformer ou n'ont plus vraiment le choix de le faire. Donc, j'entrerai pas dans ces détails-là, c'est pas mon domaine. Mais vendredi, je reçois le courriel d'une personne en anglais qui, me dit qu'il va y avoir un rassemblement bientôt en Ontario, mais bon, je pourrais pas y assister. Puis qu'elle a vu un de mes articles, donc c'est sûr que la réponse vient un peu tard, mais voilà, c'est quand même touchant. Puis elle m'envoie 2 photos, parce que la photo de monsieur, de cette victime-là, monsieur Kalnan, je ne l'avais pas. Elle n'avait pas été publiée dans les journaux et je ne l'avais pas trouvée en tout cas, mais elle l'a trouvée dans un journal hors Québec. Alors voilà, c'est tout ça, des petits incidents comme ça qui sont intéressants. Donc c'est sûr que je vais répondre à madame. C'est des choses qui sont touchantes quand on écrit des livres sur des histoires véridiques comme ça. Là, c'est sûr que vous l'aurez pas dans le livre, hein, fait que l'exclusivité est dans la balado dans ce cas-là. Il y en aura peut-être d'autres, je sais pas. Des fois, en sortant un livre, c'est les nouvelles viennent après, puis là, les gens vous contactent. Il y en a qui m'ont contacté, mais qui, bon, semblent pas trop intéressés. C'est dommage, mais bon, c'est sûr que je veux pas m'immiscer dans la vie privée de tout le monde. C'était pas ça le but, mais c'était de mieux connaître les victimes. Savoir qui elles étaient comme personnes, parce qu'elles n'ont pas choisi, évidemment, de mourir dans cet avion-là. Alors, voilà. L'autre aspect que vous retrouverez dans le livre, c'est aussi un épilogue assez complet. Bon, j'ai voulu essayer de faire retracer un petit parcours des personnages, des principaux personnages qui ont marqué cette histoire-là. Autant les procureurs, certains témoins, bon, bref. Il y a un petit texte pour chacun d'eux et j'ai fait aussi un épilogue de l'évolution de la mémoire de cette histoire-là à travers le temps jusqu'à nos jours. Donc les livres que ça a pu influencer et tout ça, même le plus récent livre que j'ai trouvé en librairie, c'était l'année dernière, ben 2021, ouais, je pense, à la librairie L'Excèdre à Trois-Rivières. Par hasard, je vois un livre « Saute au cochon », mais un tout petit livre, et puis je vais l'expliquer dans ma conclusion, la réaction que j'ai eue et pourquoi je ne l'ai pas acheté. Parce que, normalement, pour faire au moins l'analyse de pour la conclusion, parce que c'est sûr que les livres n'influencent pas mon choix ou la majorité de la partie de mes livres, parce que je me base sur les procès pour en arriver à une conclusion. Dans le fond, je permets au lecteur de se mettre dans la peau d'un des jurés, pour prendre sa propre décision. C'est exactement... on n'a pas besoin des journaux puis de tout ce qui se dit autour. Parce qu'un vrai procès, c'est comme ça que ça se déroule. Il ne faut pas que ça se laisse influencer par tout ce qui est extérieur. Mais bon, des fois, pour les conclusions ou les épilogues, des fois, j'analyse, mais en feuilletant le livre, j'ai vu à la fin... ça va peut-être révéler un punch. Encore, je révèle tous mes punchs. Moi, je suis généreux. Que voulez-vous? Mais c'est ça. Quand j'ai feuilleté le livre, à la fin, je suis tombé sur une petite phrase qui disait « Ah, Madame Pitre était probablement innocente. » J'ai refermé le livre, je l'ai remis sa tablette. Salut, bye. Juste avec cette phrase-là, je savais très clairement que monsieur l'auteur n'avait pas lu les procès et que, bon, bref, il disait n'importe quoi. C'est triste, je veux pas attaquer personne, je veux pas me mettre à dos des auteurs, mais Colin, avant d'écrire quelque chose comme ça, essayez de réfléchir un peu. Mais son livre, je pense, était plus basé sur tout ce qui était politique autour. Il raconte pas le procès, là, vraiment pas. Là. De toute façon, à la grosseur du livre que j'ai vu, je pense que ça faisait même pas 200 pages, alors que mon tome 3, à lui seul, en fait plus de... fait 550 pages. Donc, voilà. Hein? Ça va. Gâtez-vous un peu. Donc, pour cet été, c'est le livre idéal si vous voulez vous divertir et tout ça. Parce que oui, c'est une triste histoire, mais il y a quand même des faits cocasses. Madame Pitt n'est pas piquée des vers, comme on dit. C'est tout un personnage. Vraiment, c'est c'est quelque chose. C'est quand même peut-être triste là, qu'elle a été pendue d'un certain côté, parce qu'on aurait pu la voir plus en image avec l'apparition des années 50, des années 60. C'est sûr qu'on serait revenu sur le cas, on aurait essayé de... C'est peut-être qu'après avoir purgé sa sentence, elle aurait été libérée à un moment donné, on aurait fait un petit quelque chose là-dessus, un petit topo, un reportage. Mais bon, que voulez-vous, faut vivre avec le temps, l'histoire, c'est un peu ça. Il y a des pertes historiques, mais... Ça fait partie de la game, comme on dit en bon québécois. Alors, je ne vous dérangerai pas plus longtemps, parce que bon, saute au cochon, tout est dans le livre. Il y a peut-être une petite chose que je vais revenir avant de vous laisser, c'est que j'en parle dans l'introduction. Encore un petit clin d'œil aux historiens, parce que je trouvais mon idée pas bête, hein? Il faut être fier de ses propres idées, des fois. C'est que on a souvent dit, ou on s'est souvent demandé plutôt, si l'histoire était une science. Bon, d'abord, il faut savoir ce qui est une science. Ce qui revient souvent pour décrire une science, c'est il faut être capable de répéter en laboratoire, idéalement, mais en laboratoire, c'est le mot laboratoire est large, mais il faut être capable de répéter l'expérience pour le prouver que ça existe. Par exemple, si vous inventez une pilule qui guérit votre voisin du cancer, c'est bien beau, ça le guérit lui, mais est-ce que ça va guérir toutes les autres victimes du cancer? Donc là, vous faites des échantillons, puis... pas des échantillons, mais des cobayes. Puis là, vous guérissez 100 personnes. Après, là, vous dites, whoop, je pense qu'on a inventé quelque chose de pas pire. Donc, la science, c'est un peu ça, c'est l'apprentissage de... Mais comme aujourd'hui, mettons, la science sur l'évolution, tout ça, bref. Donc, avec les procès, les transcriptions sténographiques, parce que la plupart... en histoire, là, de la plupart, regardez les livres sur les tablettes dans un rayon sur l'histoire, vous ne trouverez pas beaucoup de procès. Là. La plupart, c'est des choses, bon, Christophe Colomb aussi, ça, Bonaparte, telle période de l'histoire, tout ça, c'est toutes des hypothèses tirées à partir de certains documents qui, bon, il y en a qui vont écrire 40 pages à partir d'un seul document d'une page, puis ils vont fabuler, ils vont dire ça, des théories. Mais là, avec un procès, vous avez les notes sténographiques, vous avez les paroles des témoins, vous avez toutes, mais vraiment toutes. Fait que moi, je l'affirme avec ça, oui, parce qu'on peut reconstituer un procès fidèlement. La seule affaire, dans le fond, qu'on n'est pas capable de reconstituer, ce sont l'apparence des témoins. Bon, comment ils étaient habillés, y avait-tu des mimiques, ils faisaient-tu des grimaces en disant à chaque fois tel mot? On n'est pas capable de le reproduire, il faut comme l'inventer. Si on faisait un film, par exemple, sur Saute au cochon, le plus fidèlement possible, ben là, il faudrait inventer un peu, y aller avec les vêtements du temps, tout ça. Mais les paroles, le dossier, dans le fond, la preuve, passe par là. C'est les notes sténographiques, donc oui, on est capable de reconstituer ça. Donc, pour moi, oui, l'histoire est une science, mais avec les dossiers judiciaires. Parce qu'on peut reconstituer fidèlement la preuve, c'est que les dossiers sont transportés tels quels en cour d'appel si besoin en est. Donc, ce qu'ils font, les juges de la cour d'appel, ben, ils réétudient les notes sténographiques. Alors, c'est ça. Ils n'ont pas besoin de voir l'apparence de Mme Untel qui avait un manteau bleu cette journée-là. Eux autres, c'est la preuve. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a vu? Et blablabla. Donc oui, l'histoire peut être une science à cet égard-là. Et c'est là qu'arrive toute la richesse de nos archives nationales. Je le dirai jamais assez. C'est sûr que j'ai un parti pris parce que je travaille dans le domaine aussi des archives. Mais bon, même avant, je trouvais l'importance puis je travaillais pas encore. Ça fait des années et des années. Ça fait depuis 1990 que j'ai le nez dans ça. Et l'importance de nos archives, il faut continuer à en parler. Il faut se réveiller un peu parce que les plus jeunes en ont rien à foutre du papier. Et même, j'ai vu à certains endroits, ben c'est sûr qu'il y a certains milieux de travail qui... pourraient faire le saut tout électronique. Ils n'ont pas besoin vraiment du papier au jour le jour. Mais pour ce qui est de l'histoire, attardez-vous pas à Wikipédia, là. Allez dans les archives, allez sur les archives nationales, que ce soit à Ottawa ou dans les différents bureaux de BANQ à travers la province. C'est là notre patrimoine, c'est là que ça se passe. Et pensez surtout pas que ça va. Vous allez attendre, ouais, mais moi j'attends que ça soit numérisé pour les voir sur mon téléphone. Ben non, il y en a trop à numériser. Il y a des kilomètres puis des kilomètres d'archives. Et ben ça prend du monde pour numériser ça. Et bien souvent, on peut pas numériser parce que le papier est abîmé, trop ancien. Donc, voyez-vous, ben c'est ça. Voilà. Faut se déplacer, faut faire un effort C'est sûr qu'on peut numériser certains dossiers pour les étudier après à distance, mais parfois, comme c'est le cas de Sautocochon, qui fait 7000 pages, ben bonne chance. Ça va vous coûter une petite beurrée si vous demandez la photocopie en PDF, par exemple. Et bon, bref, le papier a encore son utilité. Écoutez, surtout historique, là. Je veux dire, c'est sûr que des mémos, là, comme je disais, en milieu de travail, ça peut se faire de façon électronique, là. Puis on n'a pas besoin d'imprimer pour rien, autrement dit. Mais quand c'est des choses comme ça, des faits importants, ça a besoin de, je pense encore, d'être version papier. Parce que le papier, pourquoi, vous me direz? Ben parce qu'il a fait ses preuves. Et que la preuve, c'est qu'on peut retrouver une feuille qui date de 500 ans et on est encore capable de la lire. Alors que le PDF, peut-être que dans 10 ans, il n'existera plus. Je ne veux pas être prophète de malheur, mais le papier a fait, dans l'histoire, dans la période de l'histoire sur l'échelle du temps, le papier a fait bien plus ses preuves que l'informatique. L'informatique vient à peine d'arriver. Et voyez-vous, c'est la même histoire que l'histoire de l'humanité. Nous autres, ça fait quoi? À peu près 200 000 ans qu'on est là, alors que la Terre existe depuis quoi? Il y en a qui vont me corriger, mais je pense que c'est 5 ou 6 milliards d'années, si c'est pas plus. Donc, nous autres, on arrive dans les derniers 200 000 ans. C'est pas beaucoup, là, sur l'échelle du temps. Et pourtant, l'influence qu'on a eue. Donc, c'est pareil pour l'informatique. L'informatique vient d'arriver. Même si ça fait... la plupart des jeunes sont nés maintenant avec ça. Ils n'ont pas connu le monde avant Internet. Et voilà, eux autres, ils pensent que ça a toujours été là. J'ai même discuté avec un petit garçon de 14 ans qui, lui, ben comment ça se fait que pour tel crime, il le voyait pas dans la caméra? Oui, mais les caméras n'existaient pas. Voilà, c'est un peu plate, là, mais c'est ça. Donc, l'histoire, c'est tellement important et je pense que ça devrait même être mieux enseigné dans les écoles, montrer les archives et pas vraiment les professeurs sont peut-être trop occupés, comme on dit encore. Oui, beau petit professeur. Mais bon, c'est ça. Faut aller dans certaines disciplines pour se faire sensibiliser, par exemple, comme en technique de la documentation ou en archivistique. Là, c'est sûr qu'on va vous montrer l'importance du papier encore. Et des archives surtout, parce qu'il y a tellement de stock. Comme par exemple aussi, ça peut être non seulement judiciaire, mais des personnalités qui vont donner leurs archives personnelles. Et après leur mort, ben on peut continuer à vérifier puis à faire revivre un peu une partie d'eux autres mêmes à travers ça. Donc voilà, je me suis éloigné de mon sujet. Hein? Mais bon, pour ce qui est de Sautocochon, tome 3, il est en librairie dès maintenant. Si vous ne le voyez pas sur les tablettes, soyez pas gênés. Hein, allez-y, demandez, commandez-le, parce que c'est pas tous les libraires, malheureusement. C'est pas la pensée magique. Hein, dire qu'un livre, quelqu'un écrit un livre au Québec, puis il va être dans toutes les librairies. Non, c'est pas vrai, malheureusement. Pour X raisons, c'est assez compliqué. Même moi, je les comprends pas toutes. Je nommerai pas, mais il y a une grosse compagnie américaine qui, pour vendre des livres, même québécois, il faut des conditions et il faut même un peu les payer pour avoir le droit de mettre ses livres sur leurs étagères. Voilà. J'ai le goût de la nommer parce qu'il y en a beaucoup dans mon entourage qui me disent « Ah oui, on va là, puis... » Ouais, mais c'est ça. Des fois, pour avoir des bons livres, il faut se forcer. Les librairies de quartier, par exemple, comme l'Excède à Trois-Rivières, c'est très différent. Sont plus ouverts, eux, à aider les auteurs québécois, évidemment. Alors, c'est ça, vous pouvez le commander. Ou sinon, allez sur le site des éditions de l'Apothéose ou DistribuLivre. Et vous allez pouvoir le commander directement chez l'éditeur. Alors, c'est la méthode la plus facile. Je les mettais disponibles avant sur Amazon. Je les faisais moi-même, mais bon... À cause du transport, des fois, j'essayais de monter le prix un petit peu parce que le profit qu'on fait là-dessus est à peu près nul à cause du coût de... Je vous donne un exemple. Le livre coûtait 30 $. Moi, ça me coûtait 16 $ en moyenne, puis ça jouait tout le temps. Ça me coûtait en moyenne 16 $ par Post Canada pour les expédier. Mais des fois, ça jouait aussi. Des fois, c'était 17$. Des fois, c'était moins. Pour quelle raison, j'en ai aucune idée. Et le livre à produire coûte à peu près 15, 14, 15$. Donc, imaginez, là, que tout ce qui reste, c'est 1 ou 2$ de profit par livre. Et la dernière fois que j'en ai envoyé, j'ai tout simplement annulé les envois par Amazon parce que là, ça devenait ridicule. Là, ça devenait, je pense, moi, ça me coûtait à peu près 20$, plus que 20$ pour envoyer un livre, même ici au Québec. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, c'est assez Amazon. Désolé, pour ceux qui en achetaient, parce que ça vendait quand même beaucoup. Mais là, si je fais plus de profit, c'est bien plate, là. Mais j'ai mis des heures. C'est désolé, mesdames et messieurs. Mais oui, j'ai mis beaucoup d'heures là-dessus. C'est des années d'études, des années d'analyse et tout ça. Donc, c'est bien plate, mais bon. Alors, allez-y, forcez-vous, allez-y en librairie, demandez-le ou écrivez directement à l'éditeur. Gênez-vous pas. Les éditions de l'Apothéose ou soit Distribulive, je pense que c'est .com. Donc, voilà. Et vous allez passer un bon moment, je suis sûr. C'est sûr que ça vous permet de voir. De revoir une période de notre histoire, d'étudier aussi un certain côté criminel. Ça fait partie de la criminologie aussi d'entrer dans les détails, parce qu'il y a très peu de livres qui rentrent dans les détails. Hein. Moi, je vais à l'encontre des courants, là. J'ai jamais voulu embarquer dans ce que les éditeurs proposaient, parce qu'ils racontent des crimes comme le true crime, c'est bien beau. Mais on reste dans le surface, on rentre pas dans les détails, on raconte des crimes, puis là c'est là, wow, j'ai eu peur, puis il y a des monstres, puis il y a des meurtres, puis oui, mais on rentre pas dans le détail. Là, on étudie l'enquête vraiment. C'est pour ça que c'est long. Il y a peut-être des longueurs, oui, mais vous allez tout savoir. Là, vous aurez plus aucun. Le crime de saute au cochon n'aura plus aucun secret pour vous. Et si quelqu'un vous arrive puis qu'il essaye de vous raconter l'histoire un peu tout croche, ben vous allez le remettre à sa place. Vous allez dire non, 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 c'est comme ça que ça s'est passé. Parce que vous aurez lu, dans le fond, c'est pas mon livre que vous lisez en quelque sorte, c'est l'essentiel des trois procès qui ont été émis là-dessus. Alors, ben écoutez, j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à lire ça et peut-être que quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous me reviendront avec des commentaires. J'en profite pour dire que, bon, les plateformes vont me rejoindre. J'ai ma page Facebook à mon nom, ericveillette.ca. J'ai aussi mon blog, ericveillette.ca. J'entretiens encore à l'occasion mon fameux site qui m'a valu un peu de célébrité. Historiquement logique, que j'ai fondé en 2010, mais je l'entretiens beaucoup moins. Et il y a Mémoire d'archives, le podcast sur Balado Québec. Quelques épisodes ont réussi à se télécharger sur Spotify, mais bon, principalement, c'est sur Balado Québec. Alors, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et il y a aussi, bon, il y a une page Facebook aussi. Au nom de Mémoire d'archives et également Historiquement logique. Alors, ben, je vous remercie beaucoup et puis à la revoyure.